Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a 40 ans disparaissait Marcel Pagnol. Franck Ferrand revient aujourd'hui sur la vie et sur l'œuvre de l'un des auteurs préférés des Français. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est véritablement un des auteurs préférés des Français. Il n'y a qu'à voir l'affolement sur les réseaux sociaux depuis que l'on sait que nous allons consacrer une émission à Marcel Pagnol. Je suis ravi, moi, de cet intérêt général. Marcel Pagnol est mort, vous l'avez dit, le 18 avril 1974, à l'âge de 79 ans. Non pas à Marseille, comme on pourrait l'imaginer, ou dans son Aubagne natale, mais à Paris, dans son hôtel particulier de l'avenue Foch, symbole assumé d'une réussite exceptionnelle. Il n'en sera pas moins inhumé à Marseille, au cimetière de la Treille. Et vous connaissez peut-être la belle épitaphe de Virgile qui orne sa tombe. « Fontes amicos uxoren delixit ». Il a aimé les sources, ses amis et sa femme. J'ai convié, pour nous parler de ce personnage inoubliable, sa plus récente biographe, Karine Anne. Et d'ailleurs, je dis biographe, ce n'est pas tout à fait le terme qui convient, car son ouvrage est plutôt une exploration pleine d'échos de cette œuvre fourmillante et en grande partie méconnue.
Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Benoît via la page Facebook de l'émission sur l'origine des fêtes mobiles.
Ah oui, vous m'en direz davantage tout à l'heure. En attendant, je crois que le moment est venu de nous abandonner aux grands sentiments, aux tendresses humaines, aux questions de vie et de mort, saisies dans ce qu'il y a de plus quotidien. Bienvenue chez Marcel Pagnol.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
À la Provence, celle de Frédéric Mistral, dont nous avons célébré il y a quelques jours le centenaire de la mort. Et puis, il y a la Provence de Marcel Pagnol, tout à fait particulière, pleine, je disais à l'instant, de tendresse, de truculence aussi, celle d'un autre petit Marcel, d'une certaine manière, partant dans la garrigue chasser les Bartavelles avec son père et l'ami Lily des Bellons. Cette Provence-là s'épanouit aussi bien autour de Marius et de Fanny que de Fernandelle et de Rému, d'Angèle et de la fille du Puisatier. C'est au moins autant le cadre urbain de la Canebière, du pont transbordeur et du ferry boat. Tu me fends le cœur, je tire ou je pointe, des répliques nous viennent à l'esprit d'elles-mêmes. Voici ce que Marcel Pagnol lui-même disait de sa chère Provence. C'était sur Europe 1, bien entendu, en 1973, donc quelques temps seulement avant sa mort, et c'était au micro de Claude Manuel.
La Provence intéresse prodigieusement les Parisiens. Qui a-t-il sur la Côte d'Azur tous les ans? C'est un flot de Parisiens qui vient passer 2 mois ou 3 mois, tout le temps qu'ils ont de libre, en Provence, à cause de notre climat, à cause de la mer, à cause du ski et de la montagne. Alors c'est ça qu'il y a de merveilleux sur la Côte d'Azur, qui est une très riche partie de la Provence. C'est que moi, j'ai une petite propriété, je suis à 2 km de la mer, à 3 km de la montagne. Mmh. Et je peux aller prendre mon bain et monter faire du ski à 20 km. Mmh. C'est pour ça que c'est un département miraculeux. Bon, à Paris, vous voyez, j'étais si peu instruit des mœurs parisiennes et de la topographie. Je me suis endormi dans le train. Je n'étais pas dans un train de wagon-lit, n'est-ce pas? Je me suis endormi dans le train. Et puis je me suis réveillé tout à coup et j'ai vu qu'il n'y avait plus personne dans le train. Et j'ai vu sur le mur « Gare de Lyon ». Je dis « On est à Lyon ». Et je me suis rendormi. Et ce sont les nettoyeurs de wagons qui m'ont fait descendre.
Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est non è vero e ben trovato, comme on dit là-bas. Il y a bien sûr Pagnol le Provençal, mais il me semble qu'il serait faux, incomplet et même injuste, un peu étriqué en tout cas, de réduire Pagnol à Aubagne, à Marseille et aux Calanques. Pagnol appartient à toute la France et au-delà, à cette universalité des sentiments qui fait de lui un des auteurs français les plus traduits dans le monde. Auteur de romans, de théâtre, mais également cinéaste, nous allons y venir. C'est justement cette œuvre à travers laquelle se promène Karine Anne dans son ouvrage, et c'est ce que nous allons faire en sa compagnie tout à l'heure. Je revoyais récemment Topaze. Vous savez, Topaze, pas dans une des adaptations de Pagnol d'ailleurs, mais dans la toute première version pour le cinéma, celle de Gagné avec Louis Jouvet dans le rôle titre, pièce jubilatoire s'il en fut jamais, et d'une actualité tout simplement étonnante. Et je me disais que même débarrassé du folklore marseillais ou provençal, l'art de Pagnol demeure des plus efficaces. Quoi de plus théâtral pour commencer que la comédie sociale dont cette pièce est le fruit. À dater de Topaze, écrit Karine Anne dans son livre, Pagnol met le mensonge en scène avec l'épisode devenu légendaire et très emblématique des inégalités sociales de la baronne Pitard-Verniol exigeant que l'on retrouve l'erreur dans le carnet scolaire de son fils. Alors que Topaze, instituteur honnête et intègre, tente de lui expliquer que l'enfant ne travaille pas, le directeur lui fait comprendre que la baronne est très généreuse dans ses donations à l'établissement et qu'en conséquence, son fils ne peut avoir de mauvaises notes. Cet échange sera à l'origine du renvoi de Topaze de la pension Muche, donc à l'origine de la prise de conscience du maître d'école et de son revirement. Puisque le monde est malhonnête, n'est-ce pas ? Adoptons ces règles malsaines, battons les escrocs sur leur terrain. Telle pourrait être, en résumé, la morale ou plutôt l'immoralité jubilatoire et quelque peu désespérée de la pièce. Peut-être devrais-je commencer par resituer cette œuvre dans son contexte, au début de la brillante carrière de Marcel Pagnol. En deux mots, vous savez que Marcel Pagnol est donc né en 1895. On célébrera l'année prochaine le 120e anniversaire de sa naissance à Aubagne. Son père était instituteur. Alors, on a tous plus ou moins lu la trilogie pagnolesque, hein, et notamment La gloire de mon père, où l'on voit ce petit instituteur qui gagnait, affirme Pagnol, 52 francs par mois. Et puis cette mère si bonne, si douce, une vraie mère, à la santé fragile, de sorte que le petit Marcel va être confié très tôt à un cancre de la classe qui va un peu s'occuper de lui, en quelque sorte, l'élève Coderre. Cet élève Coderre qui, par ailleurs, plus tard, réalisera dans l'industrie du matériel roulant une extraordinaire fortune, dit Pagnol. On est dans un cadre qui reste un cadre méditerranéen, bien entendu, un peu corseté, disons-le, et d'ailleurs, voilà ce que nous racontait Marcel Pagnol, toujours en 1973, toujours dans la même interview, à propos des déjeuners à la table de famille.
L'autorité paternelle, c'était quelque chose de grandiose. Mais même de mon temps, j'avais deux tantes, dont une était officier de la Légion d'honneur, et l'autre, elle avait la Légion d'honneur, le ruban. Alors, quand nous allions déjeuner chez le grand-père était en haut de la table. À sa droite, il y avait le fils aîné, qui était mon oncle Adolphe, et à sa gauche, il y avait moi, qui était le petit-fils aîné. Et mon père passait après moi.
Mon père passait après moi. Et on voit cette espèce de hiérarchie directement héritée du droit romain, tout simplement. Alors, le père de Marcel se rend bien compte que le meilleur moyen pour que l'intelligence si vive, si ductile de cet enfant puisse prendre toute sa dimension, c'est de l'envoyer au collège. Donc le voilà parti pour Marseille. Et il fallait prendre le tramway pour y aller. Quand j'étais tout petit, raconte Marcel Pagnol, et je vous le fais moi, si vous me permettrez, sans l'accent, pour aller de chez moi au tramway de Marseille, il fallait faire un détour terrible ou alors prendre le raccourci. Mais le raccourci, c'était deux grilles qu'il fallait ouvrir sur le parc d'un château et il y avait un garde dans le château. Et alors, je me rappelle que ma pauvre mère et mon père et moi, nous nous glissions comme des voleurs pour ne pas être vus par le garde parce que lorsqu'il nous voyait, il nous faisait repartir en nous couvrant d'injures et il fallait faire 6 kilomètres de plus. Tout ça sera totalement transformé, transfiguré plus tard dans le château de ma mère. J'ai toujours gardé le souvenir de la terreur que nous avions, mon père, ma pauvre mère et moi. Ma pauvre mère n'a pas su que j'étais devenu célèbre et riche. J'étais encore jeune quand elle est morte. Seulement moi, j'ai acheté le château et je le garde. C'est tout ce que j'ai pu faire pour ma mère. Alors, les études de Marcel Pagnol sont un peu approximatives, osons le dire. Il va devenir un petit peu plus tard, parce que en fait, il remporte quelques diplômes dont il ne va d'ailleurs tirer, disait-il, aucune sorte de vanité. Et il se retrouvera pion à Condorcet. Plus tard, il fera même un peu la classe d'anglais. Mais bon, on ne peut pas dire que ce soit une très grande carrière professorale. L'essentiel pour lui, c'est d'écrire. Et d'écrire quoi ? D'écrire du théâtre. Il a une véritable passion pour le théâtre. Et il va même écrire une pièce en quatre actes, une tragédie, s'il vous plaît, tout à fait cornélienne, tout à fait dans la bonne et grande tradition. Une tragédie en quatre actes et en vers qui s'appelle Catulle, tragédie évidemment qu'il va être assez difficile de fourguer au Théâtre de Marseille. Vous imaginez donc très tôt, Marcel Pagnol a l'intuition que c'est à Paris qu'il pourrait percer, que c'est là qu'est son avenir et donc il va, comme il le disait, comme il le racontait tout à l'heure à notre micro, il va monter jusqu'à Paris. Et là, il écrit, je vous passe toutes sortes de détails sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure peut-être avec Carinane. Simplement, il va écrire son premier, j'allais dire premier succès, en tout cas oui, la première pièce qui va être repérée en collaboration avec Paul Nivois, un jeune journaliste de ses amis. Alors c'est une pièce assez particulière qui s'appelle Les Marchands de Gloire. Il faut la resituer dans son contexte, évidemment. On est juste au lendemain de cette première guerre mondiale dont on a passé son temps à fabriquer des héros. Vous savez, on est dans cette période qu'a par ailleurs si justement et si brillamment décrite Roland Dorgelès. C'est également la source d'un certain nombre des textes les plus ironiques de Jean Giraudoux. Vous savez, cette espèce de gloire un peu factice, un peu facile aussi peut-être, qu'on a essayé, dont certains ont essayé de tirer profit. Et là, c'est justement l'histoire de l'exploitation à des fins politiques et financières de la mort du héros. La pièce est présentée au Théâtre de la Madeleine. Elle reçoit un accueil tout à fait favorable de la critique, mais ça c'est très dangereux quand on connaît un peu Paris. À l'époque, Marcel Pagnol connaissait pas encore bien Paris, mais quand vous avez un accueil favorable de la critique, ça veut dire aïe aïe aïe, le public ne va sans doute pas suivre et c'est ce qui se passe en l'occurrence. Ça fait presque peur quand on dit que cette pièce fait penser à Beck, fait penser à Mirbeau. Vous imaginez, on voudrait faire fuir le public, on ne s'y prendrait pas autrement et c'est un petit peu ce qui va se passer effectivement. Alors Marcel Pagnol à ce moment-là va quitter l'enseignement, il décide de vivre pleinement de son métier. Il va faire représenter d'ailleurs une jolie pièce qui s'appelle Jazz, sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Il faut l'imaginer dans son rez-de-chaussée du boulevard Murat à l'époque, où il est là, où il travaille constamment. Il est dans une sorte de meublé, hein. C'est pas très vaste, c'est très mal éclairé parce que les fenêtres donnent juste au niveau du trottoir. Donc si vous voulez échapper à l'indiscrétion des passants, il vaut mieux tirer d'assez lourds rideaux. Et puis, dans la salle de bain, Marcel Pagnol a installé une sorte de machine étonnante parce qu'il fait des travaux, des recherches permanentes sur le mouvement perpétuel. Ça, ce sera l'obsession de toute sa vie. Et tout en travaillant sur le mouvement perpétuel, dans le même mouvement, si je puis dire, il travaille à la fois sur deux grandes pièces qui vont être Topaz et Marius. Quand Topaz va être terminé, il la présente à six directeurs de théâtre différents, à Max Moret, à Louis Jouvet, bien entendu, à Trébor, à Villemette, s'il vous plaît, qui était le directeur du théâtre qui présentait tous les grands succès de Sacha Guitry à l'époque, à Quinçon, à Pitof, ce qui veut dire qu'il ne recule pas devant ce qu'il peut y avoir de plus, on dirait nous aujourd'hui, de plus intello, de plus recherché dans le théâtre de l'époque. Et d'ailleurs, Pitof accepte la pièce, il accepte Topaz, il propose simplement à Marcel Pagnol de la soumettre à des directeurs de théâtre un petit peu plus populaires parce que il a perçu dans cette pièce cette veine, cette verve qui est un peu celle du boulevard et qui pourrait faire un grand succès. Alors, je me régalais, je vous disais moi-même, de Topaz l'autre soir. Ça me faisait penser à ce beau texte qu'un dramaturge ami de Pagnol, alors ultra parisien celui-là, d'ailleurs son confrère à l'Académie française plus tard, Marcel Achard, avait consacré au 30e anniversaire du petit chef-d'œuvre, du morceau de consécration en quelque sorte. J'ai eu du mal à le retrouver pour tout vous dire ce texte, mais enfin le voici car j'ai pu à temps remettre la main dessus et j'aimerais vous faire profiter de sa justesse amicale et de sa bienveillante sagacité. Ceux qui n'y ont pas assisté ne peuvent se faire une idée de ce qu'a été la générale de Topaz, écrivait Marcel Achard. Et Dieu sait que lui, il en avait eu des succès par ailleurs au théâtre et qu'il savait ce que c'était qu'une générale réussie. Il avait été par ailleurs un grand critique. Il a donc assisté à des centaines et des milliers de générales. Les critiques, dit-il, s'étaient rendus aux variétés à contre-cœur. Ils n'aimaient pas le titre d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Topaz ? Il ne se doutait pas que, substituant le nom du personnage principal de la pièce à celui de Castelbénac, conseiller municipal prévaricateur, le public allait faire de Topaz le synonyme de vendu, d'acheté, de pourri ou plus simplement de conseiller de la ville de Paris. Le premier acte obtint un triomphe tel qu'il nous inquiéta pour les trois autres. Inutilement, le rideau se releva entre 10 et 12 fois après le 2 et le 3, et faisant irruption dans la loge où il se cachait, nous poussâmes sur la scène l'auteur qui ne nous résistait que faiblement pour tout dire. Ça, c'est le côté un petit peu vachard de l'ami Marcel Achard qui, évidemment, égratigne un peu au passage son copain. Marcel, qui vivait assez misérablement la veille encore, était illustre le lendemain, d'une célébrité dont rien ne peut donner une idée aux jeunes gens de la nouvelle génération. On n'a jamais rien vu de pareil depuis, il faut remonter à Cyrano pour évoquer semblable enthousiasme. On ne s'embrassait pas comme à Cyrano, mais on se donnait de grandes tapes affectueuses dans le dos. En 30 ans de théâtre, j'ai peut-être assisté à 3 ou 4 000 répétitions générales, les entr'actes de Topaz sont les seuls que j'ai connus pendant lesquels on ne parlait que de la pièce.
Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions sur le sujet du jour Marcel Pagnol par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur Marcel Pagnol.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie, à l'œuvre de Marcel Pagnol.
Voici ce que Marcel Pagnol lui-même a raconté à propos de cette générale de Topaz. Le plus beau souvenir de ma vie, c'est le soir de la générale de Topaz. Vers le milieu du premier acte, j'avais lâchement fui les coulisses et je m'étais réfugié au dernier étage du théâtre dans une loge abandonnée. Par une fenêtre mansardée, je voyais des toits, je n'entendais rien, sinon le passage des taxis devant la bourse. Énervé par 2 mois de répétition, irrité par des coupures que j'avais faites moi-même, je me répétais à voix basse quelques phrases que j'avais entendues la nuit précédente, pendant qu'on réglait les éclairages. « Oh, ce n'est pas une pièce pour cette maison !» Un machiniste avait dit « Si ça pouvait tenir 3 mois !» Il le souhaitait d'ailleurs de tout son cœur, car il craignait d'avoir à répéter dès le lendemain une comédie nouvelle. Un vieil acteur avait même dit « Ça, c'était une pièce pour Jouvet !» Cet imparfait m'avait accablé. Dans cette étroite loge où la fumée de mes cigarettes commençait à m'asphyxier, je découvris sur une vieille table à maquiller un agenda crasseux sur lequel une habilleuse avait fait ses comptes au temps de Brasseur et de Jeanne Granier. J'avais un crayon dans ma poche, je me mis avec une grande application à refaire ma pièce. J'allais de découverte en découverte, j'inventais sans effort des scènes de génie, je trouvais de foudroyantes répliques. J'ai brûlé toutes ces scènes le lendemain, elles étaient parfaitement imbéciles et d'ailleurs incompréhensibles. Comme j'étais au sommet de mon inspiration, j'entendis des courses dans l'escalier. On ouvrait, on fermait les portes, j'attendis tremblant, la porte s'ouvrit brusquement. 5 ou 6 hommes entrèrent hors d'haleine, Steve, Marcel Achard, Janson, Ferdinand, René Simon, Jacques Théry, Paul Nivoy, Léopold Marchand dont la haute taille les dominait tous, une très petite larme brillait dans le grand sourire de Léopold et j'appris le succès de Topaz sur les beaux visages de l'amitié. Ah ça, voilà comment on raconte une scène qui pourrait n'être finalement qu'une scénette parmi d'autres et qui devient ce qu'on peut appeler un morceau d'anthologie. Alors après un pareil triomphe, on ne pouvait évidemment que s'inquiéter du sort de la deuxième pièce. Vous savez, Marius, que Pagnol, dans son entresol, avait écrit quasi simultanément. On avait de bonnes raisons de s'inquiéter, parce qu'après un tel triomphe, généralement, vient l'échec. On a un très grand nombre d'exemples à citer. « Nous étions tous très inquiets », raconte Marcel Achard. 103 salles absolument combles venaient de confirmer le succès de Topaz. On jouait la pièce à Berlin, à Londres, à Amsterdam, à Madrid, à Copenhague, à Bucarest et à Tokyo même. Marcel commençait sa carrière de millionnaire. Comment espérer la bienveillance et la compréhension de la critique dans des conditions pareilles ? Pagnol n'était pas le moins inquiet. Il nous confiait son angoisse. Il craignait de voir affirmer le déclin, la déchéance de l'auteur de Topaz. Le grand jour arriva. La fièvre dans Paris était à son comble. On s'écrasait au contrôle du théâtre dans l'espoir de voir manger le dompteur. On entendait des anabilités du genre « Oh, ce n'est pas possible qu'il ait réussi encore celle-là. Parce que ça va être mauvais. Paraît que c'est une blague marseillaise en quatre actes. » Mais après les trois premières scènes, l'espoir avait changé de camp. Le combat changeait d'âme. Et c'est au milieu d'applaudissements chaleureux que se termina la charmante scène entre Fanny et Marius. Après cette scène, c'était l'entracte. Emporté par une rafale de rire, la salle éclatait de joie. Dans les couloirs, on ne rencontrait que des visages épanouis. Et ceux-là même qui avaient le plus espéré un échec avaient figé sur leurs lèvres un sourire du meilleur aloi. La pièce reprit dans cette atmosphère. Et l'exaltation fut à son comble au moment de la légende. Légendaire partie de cartes. Oh, je sens que vous voulez l'entendre un peu, cette partie de cartes. Allez, on se fait plaisir.
Moi, je connais très bien le jeu de la manille. Et je n'hésiterais pas une seconde si j'avais la certitude que Pagny se coupe à cœur.
Et il continue à faire des grimaces. Tenez, monsieur Brun, surveillez ce carte-figue, moi je surveille César.
Comment ? Tu me fais ça à moi ? Un camarade d'enfance à toi ? Je te remercie.
Je t'ai fait de la peine.
Non, tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, là, un bandit de grand chemin. Tu me fais plaisir. Merci. Tu me fends le cœur.
Allons, César.
Il n'y a pas d'allons, César. Tu me fends le cœur. J'ai le cœur fendu par toi. Tu me fends le cœur.
Et alors, Scartefille, qu'est-ce que nous faisons alors? Alors, nous jouons plus, quoi? Il me fend, à moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rire. Alors, à toi, il te fait rire. À toi.
Oh, très bien. Compris. T'es cœur.
Évidemment, le public fait un triomphe à cette partie de cartes. Je l'ai vu d'ailleurs remonter il n'y a pas très longtemps par Francis Huster et ça a toujours le même succès, même si ce ne sont plus, évidemment, les mêmes auteurs. Marius est un triomphe. Je serais tenté de dire plus grand que celui de Topaz, écrit Marcel Achard. Bien que Topaz soit un merveilleux tour de force dramatique, Marius me semble très supérieur. Il y a entre eux la même différence qu'entre un pamphlet et un acte de foi. Topaz satisfait notre sens de la justice et nous amuse. Mais César, Panis, Marius, Escartefigue, Honorine, Fanny sont nos amis pour toujours. Ils sont nos petits cousins de Marseille. Et Marcel Achard va conclure son bel hommage à Pagnol de la manière suivante. Marcel Pagnol a écrit dans Catulle, dit-il, et c'est vrai que là on a un peu Corneille qui revient. « J'ai vécu loin de Rome et ma gloire est bien mince, mais j'apporte mon cœur du fond de ma province. » Ce programme, dit-il, il l'a réalisé. La gloire du petit pion de Condorcet était bien mince. Aujourd'hui, si Marcel Pagnol est illustre, écrivait donc Marcel Achard en 1959, s'il est de l'Académie, ce n'est pas seulement parce qu'il nous a apporté son cœur de sa province, mais le cœur de sa province tout entier. Bonjour Karine Anne. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher d'évoquer la partie de cartes. Nous avons revécu un peu de la gloire de Pagnol au moment de la générale de Topaz et de la toute première représentation de ce Marius qui était destiné à d'infinies adaptations de tous ordres. Avec vous, si vous le voulez, nous allons entrer dans le cœur de cette œuvre, refaire connaissance avec des personnages que nous croyons connaître, mais que Pagnol nous a peut-être un tout petit peu dissimulés. Grâce à vous, ils n'auront bientôt plus de secrets.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Il y a 40 ans disparaissait Marcel Pagnol. Vous nous en parlez cet après-midi, Franck Ferrand, dans Au cœur de l'histoire, avec votre invité, Karine Anne, écrivain et spécialiste de Marcel Pagnol, auteur de Marcel Pagnol, un autre regard aux éditions du Rocher.
Et vous me disiez, Karine Anne, que lorsqu'on s'intéresse à cette littérature provençale, on a tendance à l'université à vous orienter plutôt vers Giono que vers Pagnol, comme s'il y avait en quelque sorte les lettres nobles et les lettres moins nobles, un peu, c'est ça l'idée ?
Oui, parce que Pagnol est victime de cette image de facilité, de langage écrit, et qui est en fait un extraordinaire travail, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement érudit, hein. Il était professeur à l'université en anglais. Il traduisait donc Shakespeare dans le texte, Goethe dans le texte, Homère dans le texte, et il est encore celui qui a proposé la meilleure traduction de Virgile. Et donc, c'est très intéressant que vous ayez choisi de parler de Topaze, et en même temps que vous ayez cité Catulle là en vers, parce qu'au départ c'est ce qu'il voulait faire. Comme il était pétri justement de ces grands écrivains,
bien
voilà,
sûr, oui.
De ces grands écrivains, il souhaitait s'inscrire dans leur lignée et alors écrire en vers déjà dans un premier temps, parce que il était fou d'Edmond Rostand, et puis ensuite dans un deuxième temps quand il a renoncé à écrire en vers, en comprenant qu'écrire en prose était aussi très compliqué, ben c'est vrai qu'il a écrit des œuvres qui ont été publiées par la suite, mais qui sont très très lourdes, très pédantes, très dans un style vraiment pesant. Et donc, quand on voit qu'il donne Topaze et quand on voit qu'il donne Marius, on comprend, on mesure ce travail, cet extraordinaire travail vers la sobriété, vers la simplicité, l'épuration de son style.
Eh oui, et la très grande perfection de la situation aussi. Vous savez, quand on écrit, on a tous vécu ça, on part d'un premier brouillon, puis ça change, et puis on remanie le texte, etc. Et puis, alors, il y a 9 fois sur 10, et dans certains cas, ce qui est mon cas en tout cas, 99 fois sur 100, ça ne finit que par devenir un peu pesant, précisément. Et puis, de temps en temps, ça c'est la grâce, on ne sait pas pourquoi, chaque phrase vient bien à sa place, on a l'impression d'être sur une sorte de courant, de mouvement qui vient d'on ne sait où. Et là, le texte devient pur, fort, il n'y a rien à ajouter, rien à enlever, si je puis dire. Ce qu'il y a d'inouï chez Pagnol, et en tout cas dans le théâtre de Pagnol, on va venir à l'ensemble de l'œuvre, c'est qu'on a l'impression que tout est comme ça. On a entendu tout à l'heure cette partie de carte, bon évidemment c'est un des morceaux les plus célèbres de toute l'anthologie pagnolesque, mais quand même, on a l'impression que c'est exactement mesuré. C'est la perfection dans son genre. C'est peut-être pour ça que ça nous séduit encore tant de décennies plus tard.
Oui, et alors c'est d'autant plus paradoxal qu'en fait, à cette époque-là, lui n'a pas encore confiance en son talent. Et la partie de cartes, il l'avait supprimée. Et c'est Rému, il y a une fronde de la part de Rému. Rému
qui était metteur en scène de la pièce.
Voilà, hein. Qui a fait répéter les acteurs en cachette. Et le soir de la générale, les gens l'ont écoutée debout, tellement elle était formidable. Et Pagnol était terrorisé quand il a vu le rideau s'ouvrir sur la partie de cartes. Il a passé sa vie à être terrorisé, en fait, au début. Hein. Et en fait, ça a été un véritable triomphe. Et je crois que ce qui est très important, c'est que finalement, je pense qu'il n'y aurait pas eu Marius sans Topaze. Parce que Topaze, justement, c'est cette pièce simple, épurée, qui va le désinhiber, qui va lui donner confiance en lui. Parce que Topaze est un triomphe, là, il se dit peut-être que je peux exhumer de mes tiroirs cette petite pièce, et Simone Volterra va le pousser, la donner à son mari, et il prend confiance en lui. Pour lui, c'était une pièce régionaliste, il n'était pas question de la donner à Paris. Et en fait, peut-être que le succès de Topaze, finalement, lui donne confiance. Et
il avait écrit, si l'on peut dire, Topaze pour Paris et Marius pour Marseille.
C'est un peu ça, l'idée.
Et il y a dans Topaze, alors les références sont même, à mon avis, presque un peu explicites, mais c'est encore quasiment une œuvre de jeunesse. Il y a des références directes à Mirbeau, à Bourdet, etc., qui sont ces espèces de grandes machineries théâtrales parfaitement huilées, qui d'ailleurs ont vieilli malheureusement aujourd'hui, mais restent très efficaces. C'est-à-dire que les affaires sont les affaires, on continue de marcher, si je puis dire. Hein. Mais chez Pagnol, et ça c'est le secret, et c'est ce que vous montrez, c'est ce que vous essayez de nous faire toucher du doigt dans ce livre, c'est que chez Pagnol, il y a cette efficacité parfaite, ce métier, si l'on peut dire, cette rouerie parfois d'auteur, et en même temps, rien n'a pris une ride. On a l'impression que tout ça aurait pu absolument se passer la veille. Mais d'où vient cette espèce de qualité hors du temps, si je puis dire? C'est très étrange.
C'est très étrange, et c'est vrai que je pense que c'est parce qu'il nous parle très simplement de l'éternel humain, de ce qui est l'homme finalement. Ses compromissions, ses trahisons, ses renoncements, ses fêlures, mais aussi son amour, son ambition d'absolu, sa quête d'amour, sa soif d'authenticité. Il nous parle de tout ça au travers de ses pièces, et avec une telle simplicité, sans avoir de marqueur, si vous voulez, de marqueur de l'époque. Et c'est ce qui fait que finalement, il est universel, puisqu'il parle de l'homme, mais aussi intemporel. Je pense que c'est ce qui fait qu'il traverse le temps.
En fait, on se rend compte, j'avais eu cette révélation, si je puis dire, en voyant Jean de Florette il y a de très très nombreuses années. Moi, j'étais tout jeune à l'époque, mais Pagnol a une dimension tragique et il nous parle des très grands sentiments, des très grandes étapes de la vie de chacun de nous. C'est-à-dire que sous ce côté un peu folklorique qu'on a volontiers retenu, sous cet accent dont parlait tout à l'heure Wendy Bouchard, évidemment, c'est ce qu'on retient. Mais derrière, il y a des sentiments, des attitudes, etc., qu'on peut retrouver chez les grands tragiques de l'Antiquité, hein, finalement.
Oui, et d'ailleurs, je pense que si vous citez Jean de Florette, ça n'est pas un hasard, parce que c'est une œuvre donc de la maturité, hein, Jean de Florette et Manon des Sources, et c'est certainement une des œuvres les plus noires de Pagnol, hein, une des œuvres les plus graves, dans lesquelles on a des personnages très 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 durs, très très noirs. Il y a des meurtres, hein, dans Jean de Florette et Manon des Sources. On est quand même pique-bouffigue et tué pour qu'on puisse racheter le mât de Massacan, et ensuite on va laisser mourir ce pauvre bossu en se tuant à la tâche pour découvrir après que c'était le fils, César Soubéran laisse mourir son propre fils, donc il y a quelque chose de très très dur.
Cette scène dans le film qui en a été tiré et où c'est Yves Montand qui incarne César Soubéran, il est sur ce banc avec la vieille, dans le jour qui décline, cette espèce de lumière très fine que seule la Méditerranée est capable de donner aux soirées et aux fins de soirée, ils sont en train de s'entretenir quasiment à mi-voix, c'est un souffle. Et après un long silence, elle dit de celui qui a été le fils de César Soubéran, il dit mais ce fils je ne l'ai pas connu, qui était-il, qu'est-il devenu? Et elle dit il était bossu, et je défie n'importe quel public de n'être pas complètement envahi de frissons.
C'est terrible, oui. Vous avez dit tout à l'heure, une tragédie grecque, oui, c'est ça. Je pense que ça s'inscrit dans c'est les Atrides, hein, les Soubérans. C'est vraiment, on se massacre pour de l'argent. C'est terrible. Il y a une noirceur, effectivement, dans ce roman. Alors, c'est le roman de la lumière, hein, de la Provence, du soleil de la Provence. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension tragique, et il ne l'a trouvé qu'à la fin. Selon Jacqueline. Un matin, il est descendu, il lui dit Jacqueline, j'ai trouvé quelque chose qui peut être le renversement.
Sa dernière épouse, Jacqueline Pagnol.
Sa dernière épouse, oui. Et il lui a dit j'ai trouvé quelque chose qui va être le renversement à la fin de mon roman. César, ça sera le père de Jean de Florette. Et c'est vrai que c'est extraordinaire.
Ah oui, là, d'un seul coup, ça prend une autre dimension extraordinaire. Alors, théâtre, roman, nous le disons, on va venir au roman autobiographique, bien entendu. Et puis, cinéma. Là, c'est l'homme d'affaires qui prime, en quelque sorte. Il s'est rendu compte que s'il voulait vraiment faire fortune, il fallait passer par ce qu'on n'appelait pas encore le 7e art.
Alors je pense que c'est, au départ c'était peut-être pas sa motivation, mais il a tout de suite compris. Il a tout de suite compris que c'était sa liberté. Gagner de l'argent, c'était sa liberté pour le film suivant, parce qu'il était son propre producteur. Je pense qu'aujourd'hui on aurait éventuellement Luc Besson, qui serait à peu près l'équivalent de nos jours. Donc c'est vrai qu'il a une curiosité extraordinaire. Il s'intéresse à tout. Quand d'un seul coup il voit le premier film parlant, il se dit mais c'est formidable. Il a cette réaction de penser que effectivement un acteur qui murmure, eh bien on va pouvoir le faire murmurer à l'écran. Il sera obligé de hurler sur une scène
formidable,
pour murmurer, voilà, et que tous les spectateurs verront le même film. Parce qu'un spectateur au théâtre, selon qu'il est placé devant ou au fond, ne voit pas la même pièce.
Alors, évidemment, Louis XIV a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur Le Brun, Le Nôtre et Le Veau. De la même façon, si je puis dire, et toute proportion gardée, Marcel Pagnol a pu s'appuyer sur un certain nombre d'interprètes de génie. Oui. Évidemment, Fernandel et Rému, auxquels on songe tout de suite, mais d'autres aussi, hein, bien entendu. On parlait d'Orhan de Mazis, par exemple, en fait, etc. Bien sûr, Pierre Fresnay, qui va prendre l'accent marseillais pour incarner Marius, c'est une chance inouïe, ça aussi. C'est-à-dire que l'œuvre a été servie par d'immenses interprètes.
Oui, alors je pense évidemment, immense interprète, on pense quand même en premier lieu à Rému,
oui,
hein, parce que c'est
sûr.
Vraiment le couple légendaire. Rému, bon, je pense que c'est quand même Pagnol qui lui a proposé vraiment ses plus beaux rôles. On se souvient vraiment des films de Pagnol, hein, qu'il a tournés. Et puis c'est vrai que Pagnol, lui aussi, le rencontre tôt, puisqu'il le connaît dès 1929 lors de la représentation de Marius, puisque c'est Rému qui décroche le rôle, ils deviennent amis. Et c'est vrai que Rému lui-même va inspirer Pagnol. C'est-à-dire que quand Pagnol écrit La femme du boulanger, il pense à Rému. Quand il écrit La fille du puisatier, il pense à Rému. Les dialogues, il les entend dans la bouche de Rému. Donc c'est une espèce de dialectique entre eux.
Il a le diapason, il a la musique en
quelque
sorte.
Voilà, exactement. Et puis ça va même au-delà, parce qu'il se nourrit aussi du tempérament et du caractère. Parce que Rému était quelqu'un d'extrêmement extrêmement intuitif, mais pas très instruit, contrairement à Pagnol, qui était d'une érudition incroyable. Et il avait des fois des colères, parce qu'il n'arrivait pas, Fresnel disait, il n'arrivait pas à exprimer pourquoi il fallait que cette scène soit comme ça plutôt qu'autrement. Et alors, il rentrait dans des colères folles. Et de temps en temps, il demandait à Pagnol des choses. Un jour, il lui dit, Marcel, est-ce que tu peux me dire combien il y a d'étoiles dans le ciel? Et Pagnol lui dit, mais non, Jules, je ne peux pas te le dire. Oui, alors voilà, toi, tu as l'instruction, tu es professeur d'université, tu ne veux pas me répondre. Et ce type de personnage-là, on le retrouve chez Pagnol.
Ah oui, bien entendu. C'est toute la tendresse de Pagnol pour ces gens du Midi, mais pas seulement, on va dire, pour l'humanité tout entière. Oui. C'est ce qui nous touche, je crois. Alors, vers la fin de sa vie, Pagnol se met à écrire des romans autobiographiques. Hein, ce sont ses souvenirs d'enfance, oui, évidemment. La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets. C'est ça, oui, je ne m'abuse. Ça nous amène à sa vie. Et c'est ce que nous allons faire ensemble, si vous le voulez bien, Karina. Nous allons parler un peu de ce qu'a été la vie, la carrière, la progression, on pourrait presque dire la croissance intime de ce personnage.
Nous parlons de Marcel Pagnol cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Karine Anne, écrivain, membre du jury du prix Marcel Pagnol et du Grand Prix du roman historique, auteur de Marcel Pagnol, Un autre regard aux éditions du Rocher.
Chez l'ami Vladimir Fedorovski, évidemment aux éditions du Rocher, dans la collection Le roman des grands destins. Alors, Karine Anne, un mot peut-être, si vous le voulez, avant d'en venir. Jean de Florette, c'est le premier volet de L'eau des collines, hein, la grande saga. Il y aura, bien entendu, la grande saga biographique, c'est celle des souvenirs d'enfance, on y vient dans un instant. Un mot peut-être de cette histoire de mouvement perpétuel qu'on trouve dans tous les textes sur Pagnol. Ça m'a amusé en préparant cette émission de voir, c'était une obsession chez lui. Il avait un côté bricolo, un peu géotrouve-tout comme ça.
Oui, il a construit la Topazette qui était une voiture à trois places, trois mille francs et 3 litres au 100. Enfin bon, c'était, voilà, il était tout le temps, mais il a failli tuer Malraux quand même avec cette histoire de...
Ah oui,
parce qu'il y a un piston qui est parti dans sa salle de bain. Malraux habitait l'étage au-dessus, il était dans son bain et ça a traversé le plafond, ça atterrit dans la baignoire de Malraux et c'est passé à ça.
Ah non, c'est extraordinaire.
Oui.
Vous imaginez, c'est inouï. André Malraux tué par Marcel Pagnol. Il faut savoir en quelle année, parce qu'on aurait peut-être pu perdre un très grand nombre de chefs-d'œuvre. Alors donc ça, c'est le côté un peu étrange et incernable du personnage. À côté de ça, il est très facile de le resituer dans son monde, dans ses racines, si je puis dire. Et ses racines, elles vont chercher leur eau, c'est le cas de le dire, parce que c'est son obsession dans la vie, l'eau. Oui. Les sources, hein, on le disait tout à l'heure, les fontaines. Et il aima les fontaines, fontes dilexit. Il va chercher ses racines dans la garrigue. C'est ça son monde à lui, en quelque sorte.
Oui, et il nous livre les clés de ses secrets en écrivant les souvenirs d'enfance à la fin de sa vie. Donc quand on travaille sur son œuvre et quand on travaille sur sa vie en général, c'est vrai que les souvenirs d'enfance sont une mine d'or, parce qu'en fait on a l'impression que ça ne couvre qu'un été, alors qu'on couvre pratiquement 40 années dans ses souvenirs.
C'est ça, hein, oui. Voilà. Alors au départ c'est un petit garçon d'une très grande intelligence, même si c'est pas un très bon élève, c'est paradoxal en fait, c'est un petit prodige au départ.
Mais il est bon élève parce qu'en fait, d'abord il apprend à lire tout seul parce que sa mère le dépose dans la classe de son père. Et puis après, comme ils n'ont pas énormément de moyens, il faut absolument que Marcel ait une bourse. Donc, il va devenir le champion de son père qui le fait travailler sans arrêt, sans relâche. Il faut qu'il passe le concours des bourses et qu'il obtienne cette bourse qu'il va obtenir, qui va lui permettre d'entrer en collège et de continuer ses études.
Et oui, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout une évidence, hein,
pour un enfant de
ce milieu-là. Alors, il fait partie de cette méritocratie républicaine, comme on disait, hein. Il en est vraiment l'exemple. Il va faire des études classiques, vous nous l'avez dit. Vous parliez tout à l'heure d'un style un peu pesant dans les premiers travaux.
Oui, notamment dans La petite fille aux yeux sombres et dans Pirouette. Ce sont des phrases, surtout souvent des périphrases pour parler, par exemple, d'argent, de monnaie. Il vous dit, ces disques dorés qui teintent dans votre poche, enfin, c'est tout le temps, c'est très très lourd, c'est très, voilà, on sent que on pourrait dire, il s'écoute écrire.
Finalement, la limpidité du style de la maturité, elle n'a été payée qu'au prix d'un très très long et gros travail. Il n'y a pas de secret. Oui. Finalement, je pense qu'on peut dire, à chaque fois qu'on évoque comme ça la destinée d'un grand personnage, on se rend compte que derrière sa réussite phénoménale et le génie qui transparaît, bien sûr, il y a un énorme travail. Oui. Chez Pagnol, il y a beaucoup de travail, hein, bien entendu. Alors, après le temps des secrets, le temps des amours, quels sont les amours de Marcel Pagnol?
Alors, Le temps des amours est une œuvre publiée posthume. Je pense qu'il l'aurait pas forcément publié comme ça, mais bon, c'est un témoignage intéressant. Il voulait pas le publier parce que il a eu aussi un jeune public, hein, très enthousiaste sur les premiers tomes. Et là, bon, il commençait de parler d'amour de façon un petit peu plus appuyée, si je puis dire. Donc, il se disait que voilà, que ça pouvait choquer. Maintenant, sur le reste de sa vie, ça a été un grand amoureux. Il a eu plusieurs passions, plusieurs femmes, plusieurs enfants de femmes différentes. C'était quelqu'un, je pense, qui aimait à chaque fois comme la première et la dernière fois.
C'est-à-dire que cette espèce d'intensité que l'on voit paraître dans ses œuvres, il l'avait dans sa vie, bien entendu. Il était capable d'une passion torride.
Oui, sauf que dans son œuvre, c'est amour toujours, alors que dans sa vie, voilà, c'est long l'éternité, surtout vers la fin. Donc,
eh oui.
Voilà. Donc il a tendance, effectivement, à avoir, jusqu'à Jacqueline en tout cas, des relations qui se...
Alors
qui s'arrête.
On a bien compris qu'il avait été programmé par ses parents, par son père particulièrement, pour réussir d'une certaine manière.
Oui.
Ça ne l'abandonnera jamais. Il y a toujours ce fond d'ambition chez lui.
Ah oui.
Non pas cette volonté, mais je dirais chez lui, cette nécessité de réussir.
C'est oui, assez... et cette question est très, très jolie parce que, en fait, la dernière phrase qu'il a dite avant de s'éteindre à Jacqueline, il lui a dit « Tu vois Jacqueline, on ne peut pas tout réussir ».
Oui.
Ce qui veut dire que c'était effectivement une ambition chez lui, cette ambition de l'absolu, de la totalité. Moi, pour moi, c'est un hyper doué, mais c'était sûrement un hyperactif aussi, parce que pour avoir fait tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'était un titan de travail.
Oui, il menait plusieurs œuvres simultanément, ce que racontait oui. très bien tout à l'heure Marcel Achard, qui nous dit qu'il écrivait une scène de Topaz et l'après-midi une scène de Marius, et il revenait de l'une à l'autre comme ça, sans compter les critiques, sans compter les articles pour Comédia,
oui.
Sans compter enfin tout ce qu'il pouvait faire, y compris des travaux qu'il n'a peut-être pas toujours reconnus, parce qu'il a travaillé à droite et à gauche pour pas mal de monde aussi.
Hein, oui, il a écrit énormément, et comme il était effectivement hyper doué, il avait les scènes dans sa tête. Il les retravaillait dans sa tête. Et ça lui a posé des problèmes, notamment avec Fernandel, qui était un anxieux. Et en fait, il lui donnait le texte à tourner le matin même. Et Fernandel était extraordinairement stressé d'avoir à dire ce texte au dernier moment. Et notamment dans Angèle, il y a une scène extraordinaire où Fernandel dit son texte en tenant son chapeau et en regardant l'intérieur de son chapeau comme s'il était vraiment concentré. On a dit c'est formidable ce jeu d'acteur. En fait, il avait juste mis le texte au fond du chapeau pour s'en souvenir parce qu'il ne l'avait pas eu suffisamment tôt.
Tout simplement. Alors, vous avez parlé de Simone tout à l'heure, son épouse, sa première épouse,
oui.
Lorsqu'ils se séparent, on est en 1926, le triomphe de Topaz n'est pas encore là. C'est-à-dire qu'ils décident de vivre séparément avant que Marcel n'accède à la gloire. C'est important de le souligner, parce que souvent c'est comme ça que ça se passe. Hein. L'auteur devient très célèbre et alors d'un seul coup, il lui faut une femme plus jeune et plus jolie, si je puis dire. Mais là, c'est pas ça qui s'est passé, en fait.
C'est une jeune fille qu'il aimait, qu'il a épousée contre l'avis de son père. Il est parti avec elle à Paris, mais il n'avait pas les mêmes ambitions. Simone, déjà, ne voulait pas d'enfant, ce qui a vraiment énormément perturbé Pagnol et qui l'a éloigné probablement d'elle. Et puis lui, il avait pour ambition de réussir. Donc tous les soirs, il était dans les théâtres, dans les coulisses, à essayer de se faire des relations. C'est là qu'il a connu effectivement Paul Nivois, qui était rédacteur en chef de Comédia. Bon, voilà, pour lui, c'était important d'être dans ce milieu. Elle était très farouche, elle ne voulait pas le fréquenter. Donc, ils se sont ostensiblement éloignés. En revanche, ils s'étaient mariés tous les deux lorsqu'ils étaient deux très jeunes adultes, qui n'avaient rien. Et Pagnol, ensuite, a eu une relation avec Orane de Mazis. Il n'a pas divorcé de Simone.
La famille, hein.
Voilà, il n'a pas divorcé de Simone. Il a eu un enfant avec Orane. Mais quand il a été très, très amoureux de Josette
D... C'est intéressant ça qu'il ne divorce pas. C'est-à-dire qu'il ne veut pas la léser d'une certaine manière.
Je pense pas que même que ce soit de la lésée, mais disons que pour l'instant, voilà, elle existe plus dans sa vie. Il est avec Oran. Oran, de toute façon, ne veut pas l'épouser, ne veut pas vivre avec lui. Elle veut rester indépendante. Donc, l'idée du divorce ne se pose pas. Quand il tombe amoureux de Josette Day dans les années 40, là, vraiment, il souhaite épouser Josette. Et c'est à ce moment-là qu'il va demander le divorce. Mais entre-temps, il est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire un homme très, très riche. Et là, il va laisser la moitié de sa fortune, puisqu'il a eu la bonne idée de se marier sous le régime de la communauté.
En racontant l'autre jour l'histoire de La Belle et la Bête, j'ai dit que Cocteau, au départ, devait faire ce film avec Marcel Pagnol. D'ailleurs, Josette Day était à l'époque la compagne de Pagnol.
Oui. Oui, c'était d'ailleurs une idée de Pagnol au départ. Pagnol qui devait le tourner. Et puis il a tourné, lui, La prière aux étoiles avec Josette Day. Les pellicules étaient de très mauvaise qualité. On était en 1940. Dans les années 40, il y avait la guerre, c'était compliqué. On lui avait fait comprendre aussi que le Duce avait fait part du fait que bientôt les drapeaux fascistes flotteraient sur les studios Marcel Pagnol, ce dont Pagnol ne voulait absolument pas. Donc il a sous-traité avec la Gaumont pour que ce soit la Gaumont qui gère ses studios. Il était fatigué, il était malade, il a eu un problème de santé. Son couple avec Josette se délitait, donc il a laissé tomber ce projet de La Belle et la Bête et ils se sont séparés.
Il a été marqué par un certain nombre de deuils très importants. La mort de son jeune frère,
oui,
ça c'est
à l'âge
au
de
début
ans.
Des années 30 en fait.
Il avait 30 ans, oui, et il est mort dans une clinique, il était épileptique, il a essayé de se faire opérer, ça n'a pas marché.
Puis sa petite fille en 1954,
ça a été la grande brisure. Oui, il a perdu cette petite fille de 2 ans et demi qu'il a eue avec Jacqueline.
Il y a une sorte d'obsession, plusieurs obsessions d'ailleurs, qui viennent traverser comme ça l'œuvre de Pagnol, qui viennent l'énerver aussi, lui donner la force. On pense bien entendu à l'eau, j'en parlais tout à l'heure, on pense à la piété des gens simples. Mais il y a un sujet qui revient presque toujours, enfin souvent au cinéma notamment, c'est la fille mère.
Et oui, la fille mère, oui, parce que c'est un thème qui lui est cher, dans ce sens que ça lui tient à cœur, puisque sa mère en a été une, ce qu'on ne sait pas, puisqu'en fait, il y a eu cette chape de plomb qui est tombée sur cette histoire. Pagnol lui-même ne la met pas en scène dans les souvenirs d'enfance, et non seulement il ne la met pas en scène, mais il met en scène un tout autre scénario qui est celui de la frêle Augustine disant à Joseph « Mais c'est dire que c'est toi qui m'as fait ça, jamais je n'arriverai à faire cet enfant » en parlant du petit Marcel alors qu'elle a déjà eu un bébé avant d'être mariée et cet enfant malheureusement n'a pas survécu, c'est un petit Patrick qui a vécu moins d'une année. Mais ce thème le hante en fait, on va le retrouver dans toute son œuvre, y compris lorsqu'il emprunte à d'autres écrivains des œuvres à adapter comme Naïs de Zola ou comme Angèle de Giono. Et même plus tard, à la fin de sa vie, lorsqu'il revient à l'écriture pour écrire, donc qu'il se fait romancier pour écrire L'eau des collines, Manon des Sources et Jean de Florette, on a encore la fille mère en la personne de Florette elle-même qui va être obligée de quitter le village, d'aller épouser le forgeron de Crespin puisqu'elle est enceinte de Jean. Elle va essayer d'avorter en mangeant de la rue, la plante abortive des collines. Elle saute dans les collines et ça rejoint la scène que vous décrivez tout à l'heure, l'enfant naît, mais il naît bossu.
Quelque chose de très, comment on pourrait dire, d'un peu âpre dans tout ça, hein, finalement. Sous le soleil de la Provence se cachent parfois des drames terribles et sous le style très, très lumineux, très simple de Pagnol, parfois des tragédies. Hein. Il y a bien toujours ce tragédien qui ressort, en quelque sorte, et qui ressortira peut-être d'autant plus que le temps passera, du reste, hein, peu à peu. Alors c'est étonnant d'imaginer que cet homme qui est à la fois l'homme de la partie de cartes hein, et des galéjades était en même temps, vous nous avez dit, un grand érudit, un très grand connaisseur de littérature ancienne, etc. Que cet homme qui place dans la bouche de Rému des tirades extraordinaires était lui-même assez timide finalement, plutôt pudique. On s'en est rendu compte dans les petits extraits d'interviews que j'ai passés tout à l'heure. Il ne se livre pas facilement finalement. Il a fallu que vous alliez le chercher.
Oui, on m'a dit que je l'avais psychanalysé, oui, ce qui m'a amusé. Hein. Mais oui, non, il ne se livre pas facilement. Et on le voit dans la scène dès le début, hein, dans Marius, quand César dit à son fils « Je t'aime bien », il lui dit « Je t'aime bien ». Il faut mettre ce « bien » pour...
« Je t'aime bien ».
Voilà, pour tempérer. On n'est pas capable de dire « Je t'aime ». Vous ne trouvez pas « Je t'aime » dans l'œuvre de Pagnol.
Ouais,
cette phrase n'existe pas.
La phrase n'existe pas, non. Mais le sentiment, lui, il est partout.
Il est à chaque page, mais dire « Je t'aime », c'est quelque chose de trop fort. Il faut cette pudeur.
Et c'est peut-être parce qu'il y a cette pudeur traversée par ce sentiment que l'œuvre est devenue universelle. Je disais au début de l'émission, pour commencer cet entretien, que Pagnol était l'un des auteurs français les plus traduits dans le monde, mais on a du mal à imaginer que, je ne sais pas, les Norvégiens ou les Japonais puissent s'intéresser aux Provençaux et à Pagnol.
Eh bien, il s'intéresse peut-être plus à Pagnol qu'aux Provençaux.
Oui,
moi,
ça,
j'ai même trouvé la traduction de Pagnol au Vietnam.
Ah oui, oui.
Oui, 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 oui. Donc, ça va bien au-delà encore de l'Europe. Et je pense que, justement, nous, Français, on s'imagine toujours Pagnol avec cet accent, ce côté régional, cette Provence, etc. Et en fait, on se rend compte que quand son œuvre traverse les frontières, finalement, la quintessence n'est pas là.
Là, voilà la preuve qu'il nous fallait que l'œuvre est totalement universelle. Marcel Pagnol, un autre regard. Je pense que nous vous avons prouvé depuis quelques minutes que c'est bien un autre regard que porte Karine Anne sur le grand écrivain Marcel Pagnol, sur l'homme de la trilogie marseillaise, des souvenirs d'enfance et de l'eau des collines. Marcel Pagnol, un autre regard, s'est publié aux éditions du Rocher. Merci beaucoup, Karine
Anne.
Merci
à vous.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez, Franck Ferrand, à la question de Benoît sur l'origine des fêtes mobiles.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Benoît. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Benoît voudrait que vous lui expliquiez pourquoi certaines fêtes du calendrier grégorien tombent chaque année à des dates différentes.
Et vous avouerez que, je ne sais pas si c'est parce que j'ai l'autre jour lancé un défi aux auditeurs en leur disant que les questions étaient trop faciles. Là, vous avouerez que cette semaine, c'est plus compliqué, évidemment.
Écoute.
Alors bon, pour ce qui est des fêtes chrétiennes, effectivement, il y a les fêtes fixes et les fêtes dites mobiles. Alors, dans les fêtes fixes, il y a l'Annonciation, le 25 mars, l'Assomption, évidemment, le 15 août, Noël, plus évidemment encore, le 25 décembre. L'Épiphanie, c'est un petit peu à mi-chemin entre les deux, d'une quelque sorte, puisque c'est le dimanche qui suit le 1er janvier. Bon, c'est pas tout à fait fixe. Et puis alors, il y a les fêtes qui carrément se baladent dans le calendrier, effectivement, et qui dépendent principalement de la date de Pâques. Par exemple, le mercredi des cendres, ben, c'est toujours 46 jours avant Pâques. Les rameaux, c'est le dimanche qui précède Pâques. Bon, ça bouge en même temps que Pâques. L'Ascension, 40 jours après, etc. La Pentecôte, 50. Comment fixe-t-on la date de Pâques? C'est ça la grande question. Eh bien, au moment du concile de Nicée, qui avait été convoqué par Constantin, donc en 325, un décret sur le calcul de Pâques avait été établi. Pâques est célébré, alors tenez-vous bien, le dimanche qui suit le 14e jour de la lune qui atteint cet âge au 21 mars ou immédiatement après. Je ne le répéterai pas, il y a des podcasts pour ceux qui voudraient faire eux-mêmes leurs petits calculs et savoir quand Pâques tombera l'année prochaine ou la suivante.